Réplique, la vie et l'œuvre d'Isaac Babel, avec Adrien Le Bihan et Pierre Pachet. Né à Odessa le 30 juin 1894 et exécuté pour activité anti-soviétique le 27 janvier 1940, Isaac Babel est l'auteur de l'histoire de Montpigeonnier, des récits d'Odessa et de Cavalerie rouge. Ces trois recueils de nouvelles, réédités l'année dernière au Bruit du temps, dans une traduction magnifique de Sophie Bénech, font de Babel l'un des plus grands prosateurs du XXe siècle. Pour parler de cet écrivain rare, j'ai convié aujourd'hui Pierre Pachet et Adrien Le Bihan, qui publient chez Perrin une biographie intitulée « Isaac Babel, l'écrivain condamné par Staline ». Et en guise de première question, je vous propose, messieurs, une sorte d'exercice d'improvisation. Vous êtes face à une personne qui ne connaît Babel que de nom. Que dites-vous pour la convaincre de le lire, toutes affaires cessantes? Pierre Pachet.
Pas simple. C'est pas simple parce que, comme vous l'avez dit, il y a ces trois recueils qui sont de tonalités différentes. Mon Pigeonnier, qui concerne l'enfance. Cavalerie rouge, qui est la guerre de 1920, et au fond, la guerre catastrophique de l'Union soviétique contre la Pologne en 1920. Et les contes d'Odessa. Et j'ai évidemment lu et relu ces livres. Certains, comme les contes d'Odessa, sont un enchantement irrésistible. Mais ce qui me frappe peut-être le plus, impromptu, c'est Cavalerie rouge, c'est certains des textes de Cavalerie rouge. Et au fond, je me demande comment il a été possible qu'en Union soviétique, ce livre soit publié. Il a beaucoup de choses choquantes et au fond, il montre non seulement la violence de la guerre, mais la violence des troupes soviétiques. Et il y a des textes dans Cavalerie rouge, je pense à Guédali.
Guédali,
qui est un juif de cette région, de Voligny, Galicie. Nous sommes assis sur des tonneaux de bière vide. Guédali enroule et déroule sa barbe étroite. Son haute forme oscille au-dessus de nos têtes comme une tourelle noire. L'air tiède ruisselle autour de nous. Le ciel change de couleur. Du sang velouté s'écoule d'une bouteille que l'on renverse là-haut et je suis enveloppé d'une légère odeur de moisi. Parce que chez Babel, ce qui se passe sur Terre, qui est la guerre, cette espèce de guerre affreuse, atroce ou massacre, c'est les Bloodlands, c'est les terres de sang de cette région, il se passe toujours quelque chose dans le ciel. Et dans le ciel, il y a aussi du sang velouté qui coule d'une bouteille, il y a des têtes coupées. La violence qui est parmi les hommes, elle est aussi dans l'atmosphère, dans le ciel. Et il y a une exubérance des images de Babel, mais en réalité, une très grande cohérence. Et puis, là, justement, en improvisant, mais je pète long, ce qui me frappe chez lui, c'est pourquoi je m'étonne que, mais je comprends qu'il soit arrivé à faire publier ses textes, c'est qu'il y a une très grande justesse. C'est-à-dire que il ne se contente pas de prendre des images de ce qu'il a vu ou de ce qu'il a entendu raconter. Il essaye de dire vrai. Non pas que les faits eux-mêmes soient au millimètre près. Il essaye de dire vrai sur ce qu'a été la violence. Sur ce qu'a été la violence, au fond, de, non seulement de la guerre russo-polonaise, soviéto-polonaise, mais du bolchevisme, la violence du bolchevisme. Et il le dit dès le début, quelles qu'aient été ses amitiés avec X, Y, la violence du... Et je pense par exemple au comte d'Odessa. Enfin, ça me touche parce que mon père était d'Odessa et il est né en 95 et c'était son monde. Le monde d'Odessa que Babel décrit, c'est un monde de petits boutiquiers, de commerçants, de gens qui font du racket. C'est le monde que le bolchevisme détestait, haïssait, a voulu détruire. C'est un monde différencié. Et le bolchevisme voulait un monde unifié sous une certaine idéologie. Alors, c'est ça qui me touche.
On trouve dans la première nouvelle de Cavalerie rouge cette phrase qui m'a beaucoup frappé. Un soleil orange roule dans le ciel comme une tête tranchée. Bah, oui. une tendre lumière flamboie dans les fissures des nuages. Et puis sur Guédali, qu'il rencontre justement et auquel il consacre une nouvelle. Alors d'abord, il parle de ces veilles de Shabbat. « Ah, les Talmuds moisis de mon enfance. Ah, l'épaisse tristesse des souvenirs. » Mais ce petit boutiquier avec des lunettes au verre fumé et une redingote verte tombant jusqu'au sol est porteur d'un message tout à fait extraordinaire. Il dit « Oui, vous vous battez pour l'international, mais moi ce que je veux, c'est l'international des hommes bons. Je veux qu'on comptabilise chaque âme et qu'on lui donne une ration de première catégorie. » La nouvelle se termine par ces mots. C'est le début du Shabbat. Guédali, le fondateur d'une internationale chimérique, est allé prier à la synagogue. Voilà une nouvelle et des notations tout à fait singulières pour un écrivain qui participait à la guerre des bolcheviks. Adrien Le Bihan, votre réponse à cette question, que dites-vous à quelqu'un qui ne connaît Babel que de nom pour l'inciter à le lire ?
Bien, puisque je pense aussi, comme Pierre Paché, que des trois recueils de Babel, le plus saisissant, c'est certainement Cavalerie Rouge. Et c'est par Cavalerie Rouge qu'il est mondialement connu. Je pense qu'une bonne introduction pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas Babel, ce serait de lire le récit, la traversée du Zbrouch, que Babel a voulu en tête de Cavalerie Rouge. Le passage de la rivière en juillet 1920 est à la fois l'entrée dans une ville prise aux Polonais par l'armée de cavalerie de Budioni, qui l'accompagne en qualité théoriquement de correspondant de guerre, et c'est en même temps l'ouverture du chef-d'œuvre. Donc on entre dans cette guerre et on entre dans le chef-d'œuvre en même temps. Et cette traversée du Zbrouch, il y a beaucoup de rivières dans Cavalerie Rouge. Il y en a une qui s'appelle le Styr. Et chaque fois je me dis, mais mon Dieu, c'est la traversée du Styx. Il entre dans un enfer quand il traverse le Zbrouch. Donc si vous permettez, je la lis. Parce qu'il y a des choses capitales là, qui permettent d'expliquer beaucoup de Cavalerie Rouge et qui sont là d'entrée. Le chef de la 6e division rapporte que Novograd-Volinsk a été pris ce matin à l'aube. L'état-major a quitté Krapivno et notre convoi s'est étiré en une arrière-garde tapageuse le long de la route immuable qui va de Brest à Varsovie, construite sur des ossements de Moujik par Nicolas Ier. Des champs de coquelicots pourpres fleurissent autour de nous. La brise de midi joue dans le seigle jaunissant. Le sarrasin vierge se dresse sur l'horizon comme la muraille d'un lointain monastère. La tranquille Voligny serpente. La Voligny s'éloigne de nous dans la brume nacrée des bois de bouleau. Elle se faufile à travers les collines fleuries et ses bras alanguis se perdent parmi les buissons de houblon. Un soleil orange roule dans le ciel comme une tête tranchée. Je remets dans le contexte la phrase que vous avez citée tout à l'heure. Une tendre lumière flamboie sur les fissures des nuages. Les étendards du couchant flottent au-dessus de nos têtes. L'odeur du sang de la veille et des chevaux tués s'égoutte dans la fraîcheur du soir. Le Zbrouch noircit, gronde et tord les nœuds écumants de ses rapides. Les ponts sont détruits et nous traversons la rivière à gué. Une lune majestueuse est posée sur les vagues. Les chevaux ont de l'eau jusqu'à l'échine. Des torrents sonores s'écoulent entre des centaines de jarrets. Quelqu'un s'enfonce et injurie la Vierge d'une voix retentissante. La rivière est parsemée des carrés noirs de nos carrioles. Elle est remplie de brouhahas, de sifflements et de chansons qui grondent au-dessus des serpents de lune et des fosses resplendissantes. Nous arrivons à Novograd. Tard dans la nuit, je trouve dans le logement que l'on m'attribue une femme enceinte et deux juifs roux au cou mince. Un troisième dort déjà, collé contre un mur, la tête couverte. Je trouve dans la pièce que l'on m'a attribuée des armoires sans dessus-dessous, des lambeaux de pelisse de femme par terre, des excréments humains et des tessons de la précieuse vaisselle dont les Juifs se servent une fois par an pour la Pâque. « Nettoyez-moi ça, dis-je à la femme, comme c'est sale chez vous, bonnes gens. » Les deux Juifs se lèvent, ils sautillent sur leurs semelles de feutre et ramassent les tessons par terre. Ils sautillent en silence, comme des singes, comme des japonais dans un cirque. Leurs cous se gonflent et pivotent. Ils posent sur le sol un édredon décousu et je me couche contre le mur, à côté du troisième juif endormi. Une misère effarouchée se referme aussitôt sur ma couche. Tout est tué par le silence. Seule, la lune, serrant entre ses mains bleues sa tête ronde, luisante et insouciante, rôde à la fenêtre. J'étire mes jambes ankylosées, je suis allongé sur l'édredon décousu et je m'endors. Je rêve du chef de la 6e division. Il poursuit le commandant de brigade sur un étalon massif et lui tire deux balles dans les yeux. Les balles traversent la tête du commandant et ses deux yeux tombent sur le sol. « Pourquoi as-tu fait faire demi-tour à ta brigade ?» crie le chef de division Savitsky au blessé. Et là, je me réveille parce que la femme enceinte me tripote le visage à tâtons. « Panie !» me dit-elle, panie évocatif de monsieur en polonais. « Vous criez dans votre sommeil et vous gigotez. Je vais installer votre lit dans l'autre coin. Vous flanquiez des coups à mon papa. » Elle se redresse sur ses jambes maigres en soulevant son ventre rond et enlève la couverture posée sur l'homme endormi. Il y a là un vieillard mort, étendu de tout son long, la gorge tranchée, le visage coupé en deux, avec dans sa barbe un caillot de sang bleu comme un morceau de plomb. « Panie !» dit la juive en secouant l'édredon. Les Polonais l'égorgeaient et lui, il les suppliait « Tuez-moi dans la cour derrière la maison pour que ma fille ne me voie pas mourir. » Mais ils ont fait comme ça les arranger et il est mort dans cette pièce. Il pensait à moi. Et maintenant, dit soudain la femme, avec une force terrible, je voudrais bien savoir, oui, je voudrais bien savoir où sur la terre entière vous pourriez trouver un père comme le mien.
Alors, pourquoi avez-vous voulu lire ce texte particulièrement, Adrien Le Bihan ?
Pour que les auditeurs aient à l'oreille un récit de Babel complet, d'une part. Et d'autre part, parce qu'à mon avis, ce récit est fondamental pour diverses choses, et notamment deux que je voudrais souligner d'entrée, qui est, premièrement, Babel place Cavalerie Rouge sous le signe de l'erreur volontaire. Babel fait exprès de se tromper. Et deuxièmement, il nous place sous le signe de son alchimie personnelle.
Qu'est-ce que vous appelez l'erreur volontaire ?
Alors, l'erreur volontaire. Le Zbrouch n'est pas le Zbrouch. La rivière qui coule là, le Zbrouch, c'est tout à fait dans le sud. C'est un affluent du Dniestre. Babel, avec la cavalerie rouge, traverse la Slouch. Il a voulu le Zbrouch. Pourquoi ? Parce que le Zbrouch noircit, gronde et tord les nœuds écumants de ses rapides. La Slouch, c'est trop doux. Il faut le Zbrouch, il faut des sonorités. Babel choisit les mots avec une précision extraordinaire et une imprécision extraordinaire, mais qui va dans le sens de la précision qu'il veut. Et par ailleurs, les erreurs, il y en a d'autres. L'état-major a quitté Krapivno, mais Krapivno n'est pas là. Parce que il faut quand même dire un mot de la guerre russo-polonaise. Sinon, on ne comprend pas bien Cavalerie Rouge. La guerre russo-polonaise se déroule sur deux fronts. Le front essentiel, c'est le front nord, pour nous, disons, que les Russes appellent le front ouest. C'est Tourachevski. C'est le front essentiel. Tourachevski veut prendre Varsovie le plus vite possible. Et au passage, les Soviétiques vont fonder une république socialiste à Białystok et ils espèrent qu'elle va s'étendre pour devenir la république socialiste de Pologne. Krapivno est là-haut. Krapivno n'est pas en Volhynie. Alors il y a bien, j'ai cherché sur la carte, il y a bien un petit Krapivno quelque part, mais c'est pas celui-là en Volhynie, c'est l'autre. Et par ailleurs, la route immuable qui va de Brest à Varsovie, mais c'est pas du tout...
Vous relevez des erreurs, mais quels sens sont-elles chez Babel, ces erreurs ? Pourquoi les fait-il ?
Pourquoi elles sont là ? Mais parce que Babel veut nous montrer que ça, c'est de la fiction, qu'il ne faut pas chercher l'exactitude dans ces récits.
Oui.
Ce sont pas des récits qui se veulent exacts. Et alors, curieusement, il le fait si bien qu'un historien britannique de la guerre russo-polonaise s'est trompé à cause de ce récit, et il a mis dans sa guerre russo-polonaise, il a mis le Zbrouch lui-même, et ensuite, c'est Norman Davis. Et il s'en est excusé dans un article après.
Oui. Et la deuxième chose, c'est une alchimie.
Oui.
C'est quoi cette alchimie ? Et ensuite, je donne la parole à Pierre Pachet.
Vous avez remarqué le plomb à la fin du récit. Alors, Babel, quand on lit le journal de 1920, on se rend compte que Babel a lu Notre-Dame de Paris. Il y a beaucoup de cochers dans son œuvre, et en particulier, il y en a un qui est bossu, qui s'appelle Quasimodo, qui l'appelle lui, pardon, Quasimodo. Par ailleurs, si vous scrutez les premiers récits de Cavalerie Rouge, vous remarquez dans l'un d'entre eux qu'il y a un sonneur. Et vous remarquez dans un autre qu'il y a un diacre, de même qu'il y a l'archidiacre Frollo dans Notre-Dame de Paris.
Donc il a introduit des...
Il a introduit des éléments de Notre-Dame de Paris. Et en outre, dans la nouvelle Les Deux Ivans, on retrouve ce diacre. Ce diacre est sourd. Et alors, le cocher... est un peu sourd. Le cocher lui tire un coup de pistolet près de l'oreille, et le coup de pistolet est si fort que le diacre devient complètement sourd.
Ouais.
Babel a lu Notre-Dame de Paris, Et le plomb qui est là, c'est la couleur qui succède à ces rouges, ces oranges et ces jaunes qui sont au début de la traversée du Zbruch. Et Babel nous dit du plomb des meurtres, parce qu'il a besoin de meurtres, Babel. Du plomb des meurtres, je vous donne l'or du récit. C'est l'alchimie de Babel, à mon avis.
Pierre Pachet. Enfin, que Babel ait besoin des meurtres, cette formule me choque un petit peu, si vous permettez. Je crois que Babel n'a pas craint de faire face à la violence extrême. Ça lui a coûté cher. Il a fallu qu'il fréquente toutes sortes de gens sous le pouvoir soviétique. Lorsqu'il est allé comme correspondant de guerre pendant la guerre russo-polonaise, il a vu des choses épouvantables. Lorsqu'il est allé dans les années 30, dans les campagnes, voir de près ce qu'était la collectivisation, bon, la plupart des textes qu'il a écrits sont perdus, doivent être dans les caves du KGB ou quelque part, ou détruits. Il a vu des choses épouvantables. Il me semble que c'est pas qu'il ait besoin de ces choses épouvantables, il se trouve qu'il vivait dans un monde qui était placé sous le signe de cette violence extrême, une violence, on peut dire, une violence de guerre civile, une violence déclenchée contre une population. Et de cette violence, il ne se détourne pas et il la regarde. Je trouve que c'est extraordinairement émouvant. Mais à vrai dire, moi, par exemple, un autre texte de Cavalerie Rouge, je ne vais pas le citer longuement, qui m'a beaucoup touché, s'appelle « Sur la route de Brody ». C'est important parce que Brody, c'est une ville de Galicie qui était un centre du chassidisme. À Odessa, il y avait une synagogue de Brody, la Broderschule, où se réunissaient des gens qui étaient proches du chassidisme. Sur la route de Brody, il y a une lamentation sur le sort des abeilles de Voligny, les ruches. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a fait la cavalerie rouge? Elle a détruit les ruches. Elle a martyrisé les abeilles. Eh ben, c'est très beau. Je pleure sur le sort des abeilles. Elles sont martyrisées par les armées qui s'affrontent. Il n'y a plus d'abeilles en Voligny. Et il ose écrire, nous avons profané les ruches indescriptibles. Nous les avons empoisonnées. Bon, alors, il a écrit ça. Ça a paru, bah, tant mieux. Et ça a fait, en effet, sa renommée justifiée.
Justifié. Alors là, maintenant, justement, je me tourne vers vous, Adrien Le Bihan, parce que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'essai biographique que vous consacrez à Babel, beaucoup d'intérêt, et je dois dire aussi un certain malaise. Et Pierre Pachet a dit, vous a repris, enfin, quand vous avez utilisé la formule, il a besoin des meurtres, parce que finalement, dans ce livre, vous ne manifestez pas vraiment d'empathie pour Babel. Il y a presque même une antipathie pour cet homme qui, en effet, n'a été ni un opposant ni un dissident. Et vous dites, par exemple, que les exécutions exerçaient sur lui un attrait pernicieux, que lorsqu'il écrit à sa famille restée à Paris, et des lettres, évidemment, enchanteraient sur la Russie, c'était pas forcément pour la censure, que c'est quelqu'un qui répugnait à regarder au fond de lui-même. Et on a un peu le sentiment, à vous lire, que Babel était une espèce de bolchevique, voire de stalinien, condamné par Staline. Mais il était condamné par Staline, mais c'est comme si vous-même, vous le condamné, en dépit, en effet, de ce que Cavalerie Rouge a de tout à fait irréductible à l'art de propagande, vous trouvez, au fond, qu'il a eu un comportement, sinon indigne, du moins très critiquable. Adrien Le Bihan.
Oui, toute biographie est un attentat. C'est une phrase d'un personnage imaginaire de Jeff Edmonds, Jacqueline Tenier, dans la vraie vie de Vladimir Nabokov. Je me suis retenu quand même de commettre tout à fait cet attentat, mais il est vrai que, je dois vous dire, que écrivant cette biographie de Babel, j'ai changé d'avis sur lui en l'écrivant, parce que quand on se penche sur cette biographie, on constate des choses qu'on est désolé de constater. Cela dit, comme c'est un grand artiste, cela n'a finalement pas grande importance, puisque c'est son art qui nous intéresse.
Je ne suis pas d'accord, mais enfin...
mais,
dira ensuite.
Oui, mais alors Babel serait peut-être d'accord avec moi, parce que, si je le cite ici, si vous permettez, venant à l'époque où Babel est arrêté, il est probablement torturé, pas autant que Meyerhold peut-être, mais sûrement matraqué, on le force à répondre à des instructeurs violents.
Il fait des aveux sur lesquels il revient d'ailleurs au moment de son procès.
Oui, mais alors
quand même.
Je crois qu'il vaut même pas trop entrer là-dedans parce qu'il revient, oui, mais pas sur tous. Mais à condition aussi qu'on soit sûr que ce désaveu soit également réel, parce que comment se fier à des témoignages qui viennent du NKVD ? Ça, c'est difficile. Alors, mais il y a quelque chose.
C'est des procès-verbaux d'interrogatoire qui ont été publiés pour la première fois par Chentalinsky, qui les a trouvés
oui.
dans les archives.
Admirable, oui.
C'est
oui.
des procès-verbaux d'interrogatoire.
Oui, mais, et je l'ai constaté sur moi-même en Pologne, avec les dossiers de la police secrète polonaise qui me concernent. Mais enfin, ça, c'était l'affaire, une autre affaire. Mais simplement, ces polices des pays de l'Est, les délateurs voulaient faire plaisir à leur chef, et donc disaient ce qui convenait à leur chef, et leur chef eux-mêmes avaient des chefs auxquels ils étaient soumis et auxquels ils voulaient faire plaisir aussi. Donc, ils mettaient des choses que l'accusé n'avait pas dites, et il ne disait pas des choses que l'accusé avait dites. Il était impossible que Babel n'ait pas dit qu'il avait été ami de Gorky dans son interrogatoire. Mais ça, on ne le trouve pas, parce qu'ils ne l'ont pas tapé à la machine, je suis sûr. Mais enfin, dans cet interrogatoire, il y a quelque chose que je trouve magnifique de la part de Babel, et qui, à mon avis, sonne vrai. On pourra toujours dire que les flics l'ont inventé, mais ça m'étonnerait que les flics soient capables d'inventer une définition comme ça de la littérature, littérature de Babel. Il se repent d'avoir pensé « Aucune considération morale ou sociale ne doit empêcher l'écrivain et son style de se dévoiler et de s'épanouir. Si tu as un vice, affine-le, élève-le au niveau de l'art. » C'est ce que fait Babel. Et c'est ce que, quelques années plus tôt, le directeur de Novy Mir, Polanski, lui reproche, en tout cas il dit qu'il ne pourra pas aller beaucoup plus loin que ce qu'il a déjà fait, et je le crois. Parce que, il dit, il a travaillé pour la Tchéka, il a assisté à des exécutions, il lui faut de l'exceptionnel, de l'épicé, du meurtrier, et c'est pourquoi, Pierre Paché, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je suis d'accord plutôt avec Polanski, il lui faut du meurtrier. Et il le prouve avant d'écrire Cavalerie Rouge, il le prouve avec un texte tout à fait curieux, qui est un écrivain français que personne connaît, mais que quelqu'un a démoli, qui était Jean Norton Cru, qui est Gaston Vidal. Gaston Vidal, capitaine durant la Première Guerre mondiale, a écrit « Figures et anecdotes de la Grande Guerre » qu'il a publié en 1918. Probablement parce que les troupes françaises sont arrivées à Odessa, ce livre s'est trouvé là-bas et Babel l'a lu. Et il semble bien que ces figures et anecdotes de la Grande Guerre de Gaston Vidal, un livre assez mauvais, il faut dire, ont donné à Babel, je pense, l'idée de Cavalerie Rouge, et il a réécrit quelques textes de ce Vidal, et en particulier, si vous permettez, je vous en résume un morceau, il y a ce passage où Vidal raconte qu'il a vu, dans un trou d'obus, un soldat planqué, et tellement trouillard qu'il faisait dans sa culotte. Pour le déloger, Vidal lui pisse dessus, l'autre aussitôt s'élance vers l'ennemi en hurlant et tombe touché d'une balle allemande en pleine poitrine. Dans le récit remanié par Babel, et ça c'est quelques mois avant d'aller dans la cavalerie rouge, le soldat se réconforte au moyen d'une pratique à laquelle s'adonnent les vieillards décrépits dans les villages et les gamins vicieux dans les toilettes publiques. Et ensuite, le capitaine lui lance « Tu t'es trouvé une femme, espèce de porc !» Et la balle allemande ne suffisant pas à le tuer, elle aurait pu, le capitaine, revu par Babel, l'achève de deux coups de revolver. Ça, c'est le prélude à Cavalerie Rouge.
Oui, je suis un peu étonné de votre façon de considérer que Babel, en quelque sorte, privilégie des éléments sordide, sanglant, alors qu'il en avait plein les yeux. C'est vrai qu'il admirait beaucoup Maupassant, c'est vrai qu'il a lu ce livre que vous citez, qu'il l'a adapté, livre que vous dites vous-même médiocre, mais on peut pas ramener l'art de Babel une sorte de prédilection morbide pour le sang. Il n'y a pas besoin de prédilection morbide pour le sang quand on participe, ne fût-ce que comme correspondant de guerre et propagandiste, à la guerre russo-polonaise avec les cosaques de Budionny, qui étaient des gens sans foi ni loi et difficiles à gouverner. Donc il y a quelque chose là qui me paraît bizarre, en effet, dans votre livre. C'est que vous mettez, par exemple, vous rapprochez, lorsque Babel a travaillé comme correspondant, il signait du nom de guerre Liutov, un nom qui n'était pas juif, un nom russe. Alors vous dites, enfin, je suis vraiment scandalisé, c'est page 78, la phraséologie de Liutov n'a rien à envier à celle de Staline. Surtout que c'est pas l'époque, Staline n'est pas encore le Staline qui domine l'Union soviétique. Donc c'est bizarre. Et vous faites ça plusieurs fois, de même dans le texte si bouleversant que Babel a consacré à la collectivisation, celui qui reste, ou un paysan qui va être déporté en Sibérie en tant que prétendu koulak et à qui on enlève son cheval et qui préfère tuer sa jument qu'il aime. Et Babel aussi aimait les chevaux. Il préfère la tuer que de la laisser être réquisitionnée. C'est un texte bouleversant d'humanité. Enfin, humanité, peut-être pas le mot, ça va plus loin, puisqu'il y a l'amour aussi des animaux. Et vous vous dites, ah oui, ça n'a rien à envier à la phraséologie de Staline. Babel avait sûrement lu, c'est souvent des phrases, il avait pu lire l'article de Staline sur le vertige du succès, au moment où Staline dit, non, on est allé trop loin dans la collectivisation. Il y a une suspicion généralisée que vous faites porter sur l'homme Babel, alors que son art parle pour lui, dit la justesse de son point de vue sur la guerre russo-polonaise, sur la collectivisation, sur la vie d'Odessa, pour prendre ces trois recueils.
Et je dois dire que c'est sans doute ce qui explique son amitié avec Boris Souvarine. C'est-à-dire que quand Babel est à Paris, il voit Souvarine. Souvarine le raconte dans ses souvenirs. Souvarine, qui est l'auteur de la première biographie critique de Staline, ancien communiste. Babel sait très exactement à qui il a affaire. Et Souvarine dit très bien, oui, c'était pas un opposant, c'était pas un dissident déclaré, c'était pas ouvertement un opposant, mais... il n'était pas dupe du mensonge officiel fondamental, ni des mensonges secondaires. Et j'ajoute d'ailleurs, vous citez un discours de Babel, Adrien Le Bihan, prononcé au premier congrès des écrivains, qui est un discours absolument extraordinaire, d'ailleurs vous le reconnaissez, mais où tout d'un coup, Babel, avec un humour et beaucoup de courage, dit que dénonce ce qu'il appelle la « Pochtlost ». Qu'on traduit par vulgarité, mais même la traduction n'est pas bonne puisque une note est ajoutée pour dire qu'il s'agit des clichés, de la platitude, d'un certain sentimentalisme. Et il dit, cette Pochtlost n'est plus un défaut de caractère, c'est un crime, pire encore, c'est la contre-révolution. Voilà, à mon avis, l'un de nos plus grands ennemis. On pense à le lire, à ce que Kundera, beaucoup plus tard, dans l'insoutenable légèreté de l'être, a dit du kitsch, ce miroir du mensonge embellissant dans lequel on se contemple avec une satisfaction émue. Et son personnage, Sabina, dit que ce qui lui répugnait, c'était beaucoup moins la laideur du monde communiste que le masque de beauté dont il se couvrait, autrement dit le kitsch communiste. Donc, il dénonce la Pochtlost, qui a beaucoup à voir avec le kitsch communiste, dans un texte absolument extraordinaire. Donc il n'a pas besoin d'être un opposant pour être totalement irrécupérable par le stalinisme. Et ça, quand même, on peut lui en faire crédit, et dans son œuvre et dans ce discours, Adrien Le Bihan.
Je me trouve un peu comme James Stewart dans le film de Preminger, qui est affronté à deux avocats. Néanmoins, alors je répondrai d'abord...
Deux admirateurs de Babel.
Ah, oh, mais que je suis aussi, voilà. Que je suis aussi. Mais après tout, Babel qui aimait beaucoup François Villon, est-ce qu'il aurait été choqué de savoir que François Villon était un voleur et un assassin ?
Oui, mais c'est choquant de dire que Babel était peut-être un voleur et un assassin, alors que rien ne nous le prouve et que Souvarine plaide de manière aussi affectueuse en sa faveur. C'est pas rien quand même.
Mais Babel n'est pas un voleur, n'est pas un assassin. Je ne dis pas ça.
Oui.
Mais, alors, mais il a fréquenté des assassins, et ça on peut bien le dire quand même. Bien
oui, sûr. Mais...
Et justement, Pierre Paché, vous avez dit plusieurs fois, Babel correspondant de guerre. C'est une vaste blague. Babel n'a jamais été correspondant de guerre. Il n'est pas du tout, on ne peut pas le comparer à Hemingway correspondant de guerre dans la guerre civile espagnole. Ça, c'est absolument une blague. Babel part à la cavalerie rouge... parce qu'il en a, besoin pour écrire, il a besoin de ce sujet.
Oui.
Ça, c'est important.
Oui.
Et en outre, il part avec de faux papiers, comme vous l'avez dit, au nom de Liutov. Ces faux papiers ont quand même été établis par un tchéquiste d'Odessa qui s'appelle Ingulov. Et en plus, Babel est pistonné par Koltsov, qui sera le grand journaliste de la Pravda et le représentant de Staline dans la guerre civile espagnole.
Donc,
alors, correspondant, il est un tout petit peu agitomir, lorsque il constate un pogrom accompli, perpétré par l'armée polonaise. Bien. Et il transmet à Jugrosta, l'agence du sud de Rosta, qui deviendra TASS par la suite, il transmet des informations sur ce pogrom accompli par les Polonais. Bien. Et il est même possible, mais ça je ne pouvais pas le dire parce que c'est comment le prouver, que c'est grâce à Babel que par la suite le Daily Herald en Angleterre a mentionné le pogrom de Jytomyr. Mais les soviétiques avaient tout intérêt à ce que les pogroms accomplis par les Polonais soient diffusés par la presse britannique. Et le Daily Herald, je crois, était financé en sous-main par le Comintern. Mais cela dit, revenons à Jytomyr. Donc, il est correspondant à ce moment-là. Ensuite... pistonné encore, il va à l'état-major, il n'est plus correspondant du tout, et il s'occupe de faire de la propagande dans un journal qui s'appelle Le Cavalier Rouge, qui n'est lu, quand il est lu, que par des soldats de cette armée. Et il faut faire de la propagande aux soldats de cette armée, qui sont, mais tous le savent ici, Vorochilov le sait, mais Staline le sait, Budionny le sait, que leur armée est composée de voyous et de bandits, mais ils le savent, et l'armée rouge est justement une école de socialisme pour eux, et il faut qu'à l'intérieur de cette école, il y ait des propagandistes. Et Babel est un de ces propagandistes bolcheviques à l'intérieur de l'armée rouge.
Oui, enfin, Babel, il exerce des fonctions, oui, en effet, qui lui permettent d'être sur le front. Et il se trouve, vous l'avez mentionné tout à l'heure, que son journal de 1920 a pu être sauvé et a été publié. Il est publié à la fin de l'Union soviétique et il existe en français. Et dans le journal de 1920, on voit comment il ramasse des éléments qui vont lui permettre d'écrire les récits de cavalerie rouge. Mais c'est les récits de cavalerie rouge qui nous intéressent. Il n'a pas commis de crime qu'il ait été propagandiste soviétique, ça c'est certain. De même que, vous savez, il a fait des choses que tout homme qui voulait survivre dans le régime soviétique a fait, sont déshonorants. Par exemple, au moment des procès de 37, il a publié en français dans Commune, revue communiste, il a publié un texte justifiant les condamnations des procès de Moscou. Alors on va lui faire un procès comme ça. Pour ça, c'est vraiment scandaleux. Non, il était là, il a rassemblé les éléments, et de ces éléments, il a fait ces récits que nous admirons, c'est tout.
Oui, ces récits d'ailleurs qui, comment dire, sont ceux qui restent. Et il était conscient que ces récits, quand même, déconstruisaient toute propagande possible. J'ai ici un texte qui n'a, à première vue, rien à voir avec Babel. C'est une réflexion de Lévinas sur le Talmud. Bon, et Babel parle avec émotion des Talmuds moisis et même de la Guémara qu'il étudiait quand il était jeune. Et Lévinas dit que la grande sagesse du Talmud, c'est que les principes généraux et généreux peuvent s'invertir dans l'application. Toute pensée généreuse est menacée par son stalinisme. Et la grande force de la casuistique du Talmud est d'être la discipline spéciale qui cherche dans le particulier le moment précis où le principe général court le danger de devenir son propre contraire, qui surveille le général à partir du particulier. Cela nous préserve de l'idéologie. Et il a cette phrase pour finir, le Talmud est la lutte avec l'ange. Il me semble que l'œuvre de Babel est très exactement la lutte avec l'ange. Alors, quelles que soient les concessions qu'il était amené à faire pour survivre et pour voir ce qu'il avait besoin de voir, eh bien, son œuvre reste et elle est effectivement l'antidote à toute propagande, à tout kitsch, à tout potschlost possible, Adrien Le Bihan.
Son œuvre, oui, mais enfin, son œuvre s'éclaire par sa vie aussi. Et il y a des éléments de son œuvre qui sont incompréhensibles si on n'essaye pas de voir ce qu'il y a derrière. Par exemple, dans le récit que j'ai lu tout à l'heure, le chef de division, dans le rêve que fait le narrateur, tue un personnage qui commande une brigade, chef du régiment. Il le tue d'une balle dans la tête, il lui fait sauter les yeux. Mais il se trouve que ce personnage est identifiable. Alors, le chef de division qui appelle Savitsky, c'est en réalité Timoshenko, que Babel admire beaucoup. Et le personnage dont les yeux sautent, c'est Kniga, que Babel déteste, et qui est un autre personnage de la cavalerie rouge. Alors, il y a à l'intérieur de cette cavalerie rouge des personnages que Babel admire, des personnages qu'il déteste. Il utilise ce rêve à la fois pour régler son compte avec Kniga. Et pourquoi il lui fait sauter les yeux? Parce que Kniga, mais ça se passe après Cavalerie Rouge, après la déroute des bolcheviks face aux Polonais, Kniga a fermé les yeux sur un pogrom accompli par la Cavalerie Rouge.
Oui, d'accord. Donc les pogroms, de toute façon, lui importent. Et de toute façon, ce que lit le lecteur dans ce rêve, c'est cette violence terrible qui hantait même les nuits des soldats et des combattants. C'est ça. Pour le reste, il y a le décryptage que vous faites, mais pour le lecteur, on ne perçoit pas le moindre règlement de compte. On est atterré simplement par cette terrible violence.
Alors le lecteur, il y a eu une expérience intéressante en Union soviétique vers 1931, je crois. Quelqu'un qui s'appelait Adrian Toporov et qui était un pédagogue de kolkhoz dans l'Altaï, réunissait les gens du kolkhoz et leur lisait des textes de la littérature russe ou de la littérature soviétique. Et alors il a lu un récit de Babel, et les gens n'y ont rien compris. Et c'est une des raisons pour lesquelles Babel a été amené lui-même à renier sa cavalerie rouge. Et ce n'est pas tout à fait faux qu'il ait renié la cavalerie rouge. C'est pas seulement pour faire plaisir à ceux qui l'accusent, c'est aussi parce que lui-même, il se rend compte que ses récits ne passent pas comme il voudrait.
Oui, enfin, c'est très contestable ce que vous dites. Il est vrai que dans les années 30, Babel, qui essayait désespérément de rester un écrivain soviétique, alors même qu'il ne publiait pratiquement plus rien, a été amené à renier Cavalerie Rouge, à dire toutes sortes de choses sur son désir de se conformer à la nouvelle orientation de la littérature soviétique. Je n'en crois pas un mot. Cavalerie Rouge reste, il l'a écrit. Ce n'est pas du tout un règlement de compte. Je ne suis pas du tout convaincu non plus par la thèse que vous défendez dans votre livre, sur laquelle Staline en voulait à Babel parce que dans Cavalerie Rouge, il aurait mis en question le rôle que Staline a joué. Non, Staline en 1939, quand il a fait arrêter Babel, il avait autre chose en tête. Il avait le pacte germano-soviétique, il fallait qu'il se débarrasse d'un certain nombre de gens. Babel, c'est un miracle que Babel ait survécu jusqu'en 1939. D'autres écrivains ont survécu, effectivement, comme Pasternak. Mais Babel avait écrit Cavalerie Rouge, Babel avait écrit Les Contes d'Hadès. Il était un témoin irrécusable et connu dans toute l'Europe de la réalité que le bolchevisme était en train de détruire.
Oui, Adrien Le Bihan, vous avez un mot et je reviens.
Je tiens absolument à répondre à cette question. Il est absolument certain que Babel, les gens autour de Staline, et notamment Voroshilov et Budioni, veulent sa peau à cause de Cavalerie Rouge, et cela commence. Et c'est pourquoi aussi j'ai choisi La traversée du Zbrouch, publiée dans la Pravda en 1924, en août 1924, et c'est très important. c'est le moment où la chasse à Babel commence en Union soviétique.
Ah ben, si c'est le moment où la chasse à Babel commence, on peut mieux comprendre pourquoi Babel a par certaines déclarations, etc., essayé de saver
sa peau. Il ne sait rien. Il ne sait pas. Il ne
connaît sans jamais sacrifier son intégrité d'écrivain.
Il ne connaît pas cette chasse. Il ne sait pas qu'on l'attaque. Et alors, il le prouve plusieurs fois. Et ce qui était prévu, c'était de déclencher contre Babel. Ça, c'est un jeune historien russe qui vient de le démontrer il y a 2-3 ans dans Russie à 21. Ce qui était prévu, c'était une campagne contre Babel avec des lettres de soldats ayant participé à la cavalerie rouge, montrant que la cavalerie rouge, dont on voulait faire la propagande.
Ben voilà.
Pour pas montrer ce qu'elle avait été vraiment. Mais ils savaient, eux, parce que Voroshilov disait que, mais bien. Alors, il était prévu une campagne contre Babel dans la Pravda. Elle n'a pas eu lieu à cause d'un certain Manouilski, proche de Saline, un haut placé du Comintern, parce que, à ce moment-là, on voulait, à travers Babel, attaquer Trotsky par le biais de Voronsky, le directeur de la Friche Rouge.
Mais c'est
important.
Ne nous perdons pas dans les détails. C'est pas important, c'est surtout qu'on voulait attaquer Babel pour les raisons que vous avez dites l'un et l'autre, parce que ça n'entrait pas dans le récit glorieux que l'Union soviétique voulait faire d'elle-même et de cette guerre. Voilà
et pas
pourquoi.
Seulement, et aussi parce que Staline est responsable d'erreurs stratégiques.
Oui.
Okay. Et Tourachev qui lui reproche par écrit ses erreurs, et certains récits de Babel remettent en mémoire les erreurs de Staline. Et tous ceux qui ont publié ces erreurs ont été éliminés.
Et ont été éliminés, mais de toute façon, Cavalerie Rouge ne cadrait pas avec l'idéologie soviétique, pour des raisons précises que vous venez de dire et pour des raisons plus générales. Mais là, je voudrais moi-même essayer de répondre à la question que je vous ai posée l'un et l'autre pour commencer. Si j'avais à convaincre une personne qui ne connaît Babel que de nom de le lire Toutes affaires cessantes, eh bien, je citerais mes premiers honoraires, une nouvelle de l'histoire de mon pigeonnier. Je ne la lirai pas tout entière, mais voici les premières lignes. Vivre à Tiflis au printemps, avoir 20 ans et ne pas être aimé, c'est un malheur. Ce malheur m'est arrivé. Je travaillais comme correcteur à l'imprimerie, la région militaire du Caucase. Il loue une mansarde, le narrateur. De l'autre côté du mur, le boucher et sa femme, dans la rage de leur amour, se tortillaient comme de grands poissons enfermés dans une boîte de conserve. Les queues de ces poissons en folie cognaient contre le cloison. Et alors, il est tout triste parce que lui est seul. Il n'a qu'une chose, il ne reste qu'une chose à faire. Il cherche l'amour. Cet amour, il le rencontre dans une prostituée. Il décide qu'il va aimer une prostituée qui s'appelle Vera. Lui qui, depuis son plus jeune âge, consacrait toutes les forces de son être à inventer des romans, des pièces, des milliers d'histoires. Elles étaient posées sur mon cœur comme un crapaud sur une pierre. Possédé d'un orgueil démoniaque, je ne voulais pas les écrire trop tôt. Et il propose 20 roubles à cette prostituée. Ils vont ensemble dans une taverne. Elle prend beaucoup de temps avec des gens. Elle rentre chez elle. Elle aide une amie à faire ses malles. Elle revient vers lui au petit matin et lui dit « Bon, ben maintenant, on peut commencer. » Il trouve son discours très trivial, très prosaïque. Il est complètement désespéré. Et à ce moment-là, il invente une incroyable histoire. « Je suis un garçon. Je suis un garçon pour Arménien. » Il raconte qu'il s'est retrouvé à Bakou, qu'il a été présenté à un Arménien, Stepan Ivanovitch, qu'ils ont vécu pendant 4 ans, et puis ainsi, ensuite il s'est mis avec un riche vieillard, un marguillier. Alors la jeune prostituée, la prostituée lui dit « En somme, t'es une putain, une traînée comme noix, on est sœur, je suis une putain comme vous. » Et puis elle lui dit « Petite putain, ma sœur. » Et à ce moment-là, elle l'initie à l'amour. Cette nuit-là, une femme de 30 ans m'a enseigné son savoir. J'ai appris cette nuit-là un secret que vous ne connaîtrez pas. J'ai connu un amour que vous ne connaîtrez pas. J'ai entendu les mots qu'une femme adresse à une autre femme. Et finalement, elle lui rend ses roubles. Parce qu'il lui a raconté une très belle histoire. Ce sont ses premiers honoraires. Ce texte est absolument admirable. Et je disais tout à l'heure que c'est un grand prosateur, en effet, parce que chaque mot est choisi. Il y a à la fois un style à la fois luxuriant et laconique. Et ça rappelle ce que disait Flaubert, la prose est née d'hier. Il y a un moment donné où les prosateurs ont décidé de rendre la prose si tendue, aussi belle que la poésie. Ça a commencé avec Flaubert. On le retrouve chez Mandelstam, dans Le bruit du temps. Et à mon avis, tout à fait aussi chez Babel, d'où le charme inépuisable que peut exercer son œuvre. Pierre Paché.
Ah oui, je suis vraiment très heureux que vous ayez cité mes premiers honoraires. C'est une histoire qui est bouleversante. Elle est sûrement inventée comme l'histoire que le personnage du narrateur raconte à la prostituée. Il y a une tendresse dans tout ça qui est incroyable, qui est déchirante. Comment la tendresse peut faire mal à ce point? Oui, il faudrait citer toutes les phrases. J'ai entendu les mots qu'une femme adresse à une autre femme, je les ai oubliés. Il ne nous est pas donné de nous souvenir de ces choses-là. Toutes ces phrases désignent quelque chose qui est un secret que chacun de nous possède. Non, je suis très heureux que vous ayez cité ce texte. Je vous félicite. Je me permets.
Que dites-vous vous-même de
alors,
ce texte?
Je vais t'en rajouter dans les compliments sur ce récit que j'adore aussi et donc qui est admirable. Je vais en citer un autre qui est peut-être moins. C'est Le Voyage, qui est un magnifique récit aussi, qui décrit le voyage d'un narrateur qui est ou qui n'est pas Babel, en 1918, de Kiev à Petrograd. Le narrateur voyage dans un wagon. Kiev vient d'être prise par les bolcheviks. Le narrateur voyage dans un wagon à côté d'un instituteur juif et de sa femme, sa jeune femme. Le train est arrêté dans la nuit, dans la neige, par probablement des bolcheviks.
Oui, une patrouille.
Ouais. Une patrouille. Et alors, ils ont d'ailleurs un papier signé Lunacharsky. Un moujik, et c'est très important ça, que ce soit un moujik, avise l'instituteur juif, qui lui pense à ses théories pédagogiques à ce moment-là, qui vont peut-être être rénovées grâce à Lunacharsky. Il le tue d'un coup de pistolet dans le visage. Et ensuite, il lui coupe, Babel dit, les parties génitales, alors disons comme lui. Et il les fait avaler à la femme de l'instituteur en lui criant « Vas-y, bouffe ça, c'est cachère ». Alors, il faut quand même aussi citer ces récits-là. Mais ce qui est très important dans Le Voyage, et ce qui explique beaucoup sur Babel, c'est à la fin du voyage. Les récits de Babel racontent des choses qui ont l'air de ne pas avoir de lien et qui en ont souterrainement. Et ici, à la fin, on assiste à la manière dont le narrateur, et probablement Babel, est allé voir, grâce à un ami qu'il avait connu, un ancien sergent, est allé être présenté au chef de la Tchéka de Petrograd, le fameux Ouritsky qui a été assassiné ensuite et qui est coupable de quantité de crimes. Et c'est probablement à ce moment-là que Babel a été engagé pour traduire des textes pour la Tchéka. Mais ce que Le Voyage semble nous dire, c'est « Oui, j'ai été à la Tchéka », et d'ailleurs il le dit très souvent chaque fois qu'on lui demande. Mais c'est probablement pour empêcher que des moujiks, parce qu'ils détestent les moujiks russes, comme Gorky, pour empêcher que les moujiks commettent les meurtres tels celui qui est commis dans le train. Mais il n'empêche pas que la Tchéka, elle, a commis d'autres meurtres.
Oui, il déteste les moujiks, c'est bizarre. Il le nomme moujik, le personnage qui tue, ce bolchevique qui tue l'instituteur dans le récit. C'est un moujik, c'est un paysan, mais c'est un paysan enrôlé dans les rangs des communistes. C'est pas en tant que moujik. Bien sûr, il y a une violence, il y a l'antisémitisme russe qui est présent, que Babel est un des rares dans le régime soviétique à décrire avec autant de franchise, mais je sais pas, à chaque fois vous ramenez Babel à ses prétendus, à ses supposés errements, alors que ce qui nous intéresse, c'est pas simplement la beauté, il me semble, c'est la vérité de ce qu'il décrit.
Et pourtant,
Adrien Lebihan, oui.
Et pourtant, il m'apparaît que Babel, ce qu'il veut faire du juif qui lui convient. Il déteste les Juifs, du hasidisme qu'il a vu en Volhynie.
Mais
il les décrit très bien.
C'est beaucoup trop catégorique.
Bon, il y a plein de signes dans son récit. Mais il le dit.
C'est comme si on pouvait dire que Mandelstam déteste les Juifs quand il a écrit Le Chaos judaïque dans Bruit du Temps. Non, ce sont quand même des choses un peu plus. Comment dire.
Non, il y a un passage, excusez-moi, Adrien Lebihan, où vous dites il n'a que mépris pour ces Juifs. Racidique, mais pas du tout, pas du tout. On peut dire que l'essentiel, en particulier un récit comme Sur la route de Brody dans Cavalerie Rouge, c'est un récit sur les traces du racidisme assassiné. Alors qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Enfin, moi, vous êtes un étrange personnage.
Babel est quelqu'un qui déteste avec affection. Et ça, c'est extraordinaire. C'est rare, une personne comme ça.
Oui, alors s'il déteste avec affection, on ne peut pas dire exactement qu'il déteste. Et un mot quand même sur la Tchéka, parce que Souvarine écrit dans ses souvenirs sur Babel que la Tchéka est associée à la notion de terreur rouge, qu'elle fait penser au sous-sol de la Loubianka. Mais le nom complet, dit-il, c'était Commission extraordinaire pan-russe de lutte avec la contre-révolution et le sabotage. Cette institution recrutait du personnel de tous côtés, nouveaux fonctionnaires, secrétaires, traducteurs, comptables, dactylos, courriers et gratte-papier, et beaucoup de gens qui ne faisaient rien. Je soupçonne, simplement titulaire d'une ration, donc d'une possibilité de survivre, je soupçonne Babel d'avoir fait partie de cette dernière catégorie. En tout cas, je puis certifier qu'il n'a tiré jamais aucune balle dans aucune nuque. On a quand même quelques raisons de se fier au témoignage de Boris Souvarine. Donc voilà, c'est pas Babel n'était pas, si vous voulez, un fonctionnaire de la Tchéka, de ce qui est devenu ensuite le NKVD et le KGB. C'est un peu, c'est pas tout à fait de ça qu'il s'agit.
Babel a un grand ami qui s'appelle Yefim Evdokimov. Pour le bien connaître, il convient de lire le superbe livre de Nicolas Wirth et Berilovitch, L'État soviétique contre les paysans. Evdokimov est là. Evdokimov est ami de Babel. Evdokimov a signé des décrets disant il faut vider les prisons parce qu'elles sont trop pleines en Ukraine. Et il y a d'autres gens qui doivent y entrer.
Mais Babel n'a pas connu les décrets d'Evdokimov.
Dans le récit, Pierre Paché, que vous avez cité tout à l'heure, et que j'aime beaucoup, où il y a ce massacre du cheval par le paysan, qui est Kolivushka, il y a trois envoyés officiels qui viennent embêter Kolivushka et réquisitionner sa propriété. Et il y en a un qui serait partisan de l'épargner. Comment se fait-il que Babel l'appelle Evdokim?
On terminera là-dessus. Vous êtes vraiment extrêmement suspicieux. Et je voudrais finir quand même par deux citations de Babel. La première de mes premiers honoraires. Une bonne fiction n'a pas à ressembler à la vie réelle. C'est la vie qui essaie de toutes ses forces de ressembler à une bonne fiction. Et puis cette autre, la nouvelle intitulée Guy de Maupassant. Aucun fer ne peut pénétrer dans un cœur d'homme de façon aussi glaçante qu'un point placé au bon endroit. Je vous remercie, Pierre Pachet et Adrien Le Billon. Je rappelle, Adrien Le Billon, que vous avez publié Isaac Babel, l'écrivain condamné par Staline, et les œuvres complètes de Babel sont éditées au Bruit du Temps, je l'ai dit, dans une traduction magnifique de Sophie Bénèche.
Avec le volume en poche.
Et il y a aussi, en livre de poche, chez le même éditeur, Histoire de mon pigeonnier, d'Isaac Babel. La semaine prochaine, l'émission portera sur l'euthanasie. Elle aura pour titre « Est-ce ainsi que les hommes meurent ?» Mes invités seront Jacques Ricot et Gabriel Ringlet. À l'occasion des 30 ans de réplique, nous ferons deux enregistrements publics, mardi 17 novembre au studio 104 de Radio France. Le premier avec Régis Debray, le second avec Suzanne Julliard et Fabrice Lucchini. Vous trouverez sur le site la procédure à suivre pour les inscriptions qui sont gratuites. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde, à la technique aujourd'hui Pierre Monteil, dans un instant Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, La Mecque, la foi et la foule, avec Sylvia Schifolo.